Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ce journal, le chef de la MONUSCO est arrivé ce vendredi matin à Goma, au Nord Kivu. James Swan indique que sa visite s'inscrit dans le cadre des efforts de mise en œuvre du cessez-le-feu. Il prévoit d'échanger avec les acteurs concernés pour appuyer l'opérationnalisation du mécanisme conjoint de vérification élargie. À Kisangani, les autorités urbaines ont procédé hier jeudi à la démolition de plusieurs kiosques et habitations à usage commercial. Cette opération place les commerçants dans le désespoir pendant que la mairie invoque la lutte contre les constructions anarchiques. Notre invité, c'est Dr. Jules Nguyen. Il est le chargé de programme pour la RDC au sein de l'organisation Gavi. Il fait le point sur le déroulement des activités de vaccination, identifie certains défis de la province et réaffirme l'engagement de Gavi de continuer à appuyer la province du Maniema dans l'éradication de la poliomyélite dans cette province. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO est arrivé ce vendredi matin à Goma au Nord Kivu. James Swan indique que sa visite s'inscrit dans le cadre des efforts de mise en œuvre du cessez-le-feu. Trois semaines après sa prise de fonction, il affirme que Goma demeure au cœur du processus des escalades et de paix. Il prévoit d'échanger avec les acteurs concernés pour appuyer l'opérationnalisation du mécanisme conjoint de vérification élargie. Écoutons James Swan dans ses propos recueillis par Rosalie Zawadi.
Ma présence ici vise d'abord à rencontrer nos équipes, à écouter leurs analyses, à échanger avec les autorités de facto et à examiner les conditions concrètes dans lesquelles la MONUSCO peut poursuivre son mandat conformément aux résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité de l'ONU. La MONUSCO est mandatée pour soutenir le cessez-le-feu à travers sa participation et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus. Nous avons salué les avancées vers la signature du protocole sur l'accès humanitaire et la protection judiciaire et encouragé les parties à maintenir leur engagement afin de conclure rapidement cet accord en vue de mettre fin aux souffrances des populations civiles affectées par le conflit.
Notons que cette première visite à Goma du nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC va durer 3 jours. Nord Kivu toujours, la situation humanitaire reste critique au premier trimestre 2026. Dans un rapport rendu public mardi dernier, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires OCHA fait état des déplacements massifs de populations consécutifs à l'insécurité dans plusieurs territoires de la province. Au 31 mars 2026, le Nord Kivu comptait plus d'1,270,000 déplacés internes et près de 3,900,000 personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë, dit OCHA. Bernadette Nyangi pour les détails.
Les affrontements opposant les rebelles de l'F-523 à des groupes armés alliés au FARDC ont particulièrement aggravé la crise humanitaire, notamment dans la partie sud de la province, indique OCHA. L'agence onusienne cite plusieurs localités de la chefferie de Buito en territoire de Rutshuru. Le rapport mentionne également les axes Kalembe, Peti, Kibua, Kachebere, ainsi que le groupement de Boabo, Nyamaboko 1er, Nyamaboko 2 et Ufamando 2, à cheval entre les territoires de Massissi et de Walikale. Durant presque tout le mois de mars, ces zones ont été le théâtre de violents combats, poussant près de 40 000 personnes à fuir leurs habitations vers les zones plus sécures. Selon OCHA, ces nouvelles vagues de déplacés viennent s'ajouter aux déplacements antérieurs enregistrés dans les 4 territoires, portant ainsi le nombre total de déplacés internes à plus d'1,270,000 personnes à l'échelle de toute la province. Malgré les défis liés à l'insécurité et aux contraintes d'accès, les acteurs humanitaires ont tout de même pu fournir une assistance alimentaire et des articles essentiels à plus de 98 600 personnes principalement dans les territoires de Massissi et de Lubero.
En Ituri, pendant ces temps, les chefs coutumiers et notables du territoire de Mambasa apportent leur soutien à la présence de la MONUSCO dans la zone. Objectif, appuyer les FARDC dans les opérations contre les ADF qui ont intensifié leurs attaques contre les civils depuis le mois de mars. Cette position a été exprimée jeudi à l'issue d'une réunion avec le comité local de sécurité. Le gouverneur des provinces a, lui aussi, rassuré la collaboration entre la MONUSCO et son gouvernement pour la protection des civils. Isaac Remoupi nous en dit plus.
La réunion a rassemblé les 7 chefs des différentes chefferies ainsi que des notables du territoire de Mombasa. Ensemble, ils ont évalué la situation sécuritaire marquée par de multiples attaques des ADF depuis le 8 mars. Ces violences ont fait au moins une centaine de morts, provoqué le déplacement de milliers de personnes et causé d'importants dégâts matériels. Dans une déclaration publique, ils saluent les efforts des FARDC pour sécuriser la population. Ils se disent également favorables à la présence de la MONUSCO pour appuyer ces opérations tout en mettant en garde toute tentative de manipulation des populations par certains ennemis de la paix.
Trop de sang a coulé, il est temps de dire stop. Nous déclarons notre soutien total au FARDC. Notre position claire sur la MONUSCO. Nous acceptons sa présence comme partenaire du gouvernement pour appuyer le FARDC, protéger les civils et faciliter l'assistance humanitaire aux déplacés. Toute tentative de manipulation visant à dresser la population contre elle doit cesser immédiatement.
De son côté, le gouverneur a affirmé que la MONUSCO et le gouvernement provincial travaillent en étroite collaboration pour la protection des civils.
Cette collaboration se fait dans la transparence. Il n'y a pas d'agenda caché. Tout ce que nous faisons, nous le planifions ensemble.
Signalons que des jeunes avaient barricadé la route à l'entrée de Mambasa pour empêcher l'arrivée des casques bleus dans ces territoires. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Et puis les 470 réfugiés congolais rapatriés volontairement du site de Ruigi au Burundi sont arrivés hier à Uvira dans la province du Sud Kivu. À leur arrivée, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR, bureau d'Uvira, les a hébergés provisoirement en attendant leur retour effectif vers leur milieu d'origine. Prévue ce vendredi. Selon les HR Uvira, un second convoi de retournés volontaires est attendu le 30 avril prochain. Jean Kassami nous en dit plus.
Les personnes rapatriées sont arrivées jeudi dans la soirée au site de transit aménagé à Kavimvira, non loin de la frontière burundo-congolaise. Le chef de bureau du Haut Commissariat aux réfugiés, HCR Uvira, revient sur le dispositif d'accueil qui était mis en place.
Nous avons reçu le convoi, mais en deux étapes. Une étape d'abord d'accueil à la frontière, accueil aussi marqué par quelques allocutions. Après, nous avons accompagné le convoi au centre de transit où les rapatriés ont reçu des informations sur les services disponibles avant, bien sûr, de bénéficier du repas chaud et d'être donc installés dans les dortoirs communautaires établis.
Le gouvernement provincial du Sud Kivu réitère sa reconnaissance à l'État burundais qui a offert un abri aux milliers de Congolais sur son territoire. Jean-Jacques Elakano, vice-gouverneur.
Nos frères qui sont restés ici doivent les accueillir et leur permettre de s'intégrer facilement dans leur milieu d'origine sans beaucoup de peines et de difficultés.
Le deuxième groupe d'environ 1000 personnes arrive le 30 avril prochain, précise le HCR Uvira. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Des représentants de la RDC et du Rwanda ainsi que des États-Unis, du Qatar, de la République togolaise en tant que médiateur de l'Union africaine et de la Commission de l'Union européenne se sont réunis hier jeudi à Washington aux États-Unis. Objectif, évaluer la mise en œuvre de l'accord de paix signé le 27 juin 2025 entre la RDC et le Rwanda. C'était à l'occasion de la 5e réunion du comité mixte des surveillances. Dans une déclaration conjointe de toutes les parties publiées par les départements d'État américains, Kinshasa et Kigali réaffirment leur engagement à maintenir la dynamique du processus de paix et à consolider les progrès réalisés. Les détails avec Martial Papimukeba.
Les discussions ont porté sur l'évaluation des progrès réalisés depuis les réunions tenues les 17 et 18 mars 2026. La RDC et le Rwanda ont notamment fait le point sur les mesures mises en œuvre pour réduire les tensions et améliorer la situation sécuritaire sur le terrain. Selon la déclaration publiée à l'issue de la réunion, le Qatar a à cette occasion présenté une mise à jour sur les négociations en cours entre la RDC et l'AFC M23. Le comité a exprimé son soutien total à ces efforts. efforts diplomatiques, tout en saluant l'implication de la Suisse dans l'accueil du dernier cycle des pourparlers de Doha. Les participants ont également souligné l'importance du processus de Doha, considéré comme un élément clé dans la consolidation des avancées du processus de paix globale, précise la déclaration. En fait, les parties prenantes ont réaffirmé leur engagement à maintenir la dynamique en cours et à poursuivre les efforts communs pour consolider la paix, souligne la déclaration. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Je le disais en titre, à Kisangani, les autorités urbaines ont procédé hier jeudi à la démolition de plusieurs kiosques et habitations à usage commercial. Les sites du centre Simama et de Kinsoir en sont affectés. Cette opération place les commerçants dans le désespoir pendant que la mairie invoque la lutte contre les constructions anarchiques. Un reportage de Jacques Moukonkole.
Les kiosques érigés aux abords du centre Simama et de l'espace Kinsoar sont réduits en poussière. Pour les propriétaires, c'est le choc de voir des investissements de toute une vie s'écrouler en quelques minutes. Témoignage de l'un des sinistrés.
J'ai emprunté 3000 dollars chez FICAM pour remettre 4500 dollars. Maintenant, vous avez détruit. Comment je vais rembourser? On va m'arrêter.
Pourtant, du côté de l'hôtel de ville, on affiche une fermeté absolue. Cette opération s'inscrit dans une volonté d'assainissement urbain. Le maire de la ville de Lili Koundé.
Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, nous a légué une icône de macadam. À côté de macadam, des bois de coffrage. C'est anormal.
Sur le terrain, la société civile Force Vive s'inquiète. Elle craint que ces espaces vides ne se transforment en zone d'insécurité une fois la nuit tombée. Henri Kassongo, secrétaire exécutif.
Nous craignons la recrudescence des Koulouna parce qu'ils n'ignorent les gens qui sont derrière les de Lumumba, la plupart ce sont des colonnes. Voici ce que ça fait.
Pour couper court à ces craintes, le maire annonce une réaffectation immédiate. Un parking public sera bientôt installé sur ce site du centre Simama. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Revenons encore une fois à Béni au Nord Kivu. Depuis quelques jours, les prix des produits pétroliers et des premières nécessités flambent sur les marchés locaux. En cause, l'introduction d'une nouvelle taxe gouvernementale appelée taxe garantie santé, appliquée notamment aux produits pétroliers, aux matériaux de construction et à d'autres marchandises importées. Conséquence directe, les commerçants ont revu leurs prix à la hausse, parfois même jusqu'au double. Ce matin, par exemple, le litre d'essence vendu auparavant à 3500 francs congolais s'est négocié à 6000 francs, voire 7000 francs congolais. Face à cette situation, le Conseil urbain de la jeunesse de Béni tire la sonnette d'alarme. Son président Joël Kabunga redoute un durcissement des conditions de vie de la population et appelle le gouvernement à revoir sa décision. Il explique au micro de Marc Marofimbo.
Nous sommes très surpris de constater en un seul coup comme ça, les commerçants ont haussé les prix sur les marchés. En faisant beaucoup plus d'investigations, on a appris qu'il y a une nouvelle taxe garantie santé introduite par le gouvernement central dans le système Sidonia. Une taxe que personne ne connaît son avantage ou alors sa contribution pour l'économie de la RDC. Mais également, on est en train de se demander, est-ce que le gouvernement central, en introduisant cette nouvelle taxe dans nos systèmes de déclaration, le gouvernement a pris vraiment compte des réalités que traversent certaines régions de la République. Nous sommes en train d'appeler le gouvernement central de s'impliquer le plus vite possible dans cette question, afin que cette taxe soit levée pour permettre à la communauté d'au moins bénéficier des prix adaptés aux réalités de notre région.
Des centaines de filles de la province éducationnelle Kasaï 1 ont été renvoyées des écoles mercredi à cause du non-paiement des frais scolaires. Ces filles étaient des bénéficiaires du projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles connu comme PAF, financé par la Banque mondiale. Dans un communiqué publié jeudi, le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté condamne cette situation et annonce qu'il prend des dispositions pour que pareilles choses ne se reproduisent. Le point avec André Katende Ngalamoulume.
Dans son communiqué du 23 avril, le ministère rappelle que ces programmes visent à lever les obstacles à la scolarisation des filles et estime que les difficultés rencontrées nécessitent des corrections urgentes. Le ministère insiste sur le fait qu'aucune élève ne doit être renvoyée de l'école en raison d'un différend administratif ou financier. Pour faire face à cette crise, plusieurs mesures ont été prises, notamment la cessation immédiate des tout renvois d'élèves filles liés au programme PAF, les renforcements de mécanismes de remontée des plaintes à tous les niveaux, ainsi que la mise en place d'une cellule de crise et le déploiement d'une mission de stabilisation afin d'établir le fait et de sécuriser le bénéficiaire. Une enquête administrative est également annoncée pour établir les responsabilités dans les dysfonctionnements observés, signalant que les élèves filles bénéficiaires du projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles ont repris les cours ce jeudi. Kananga, André Katendengala Moulumé, Radio Okapi.
Comment sont financées les opérations militaires? Les soldats et policiers sont-ils bien pris en charge? Et que fait l'État pour sécuriser les sites miniers du pays? Ce sont quelques-unes des questions au cœur des travaux de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Après plusieurs auditions de membres du gouvernement, un rapport a été remis ce jeudi au président de la Chambre basse. Un document appelé à orienter les décisions pour mieux répondre aux attentes de la population en matière de sécurité. Parmi les ministres auditionnés figurent, notamment ceux de la Défense et de l'Intérieur. Le rapporteur adjoint de la Commission, Joseph Nkoy Wembo, revient sur les principaux points abordés dans ses propos recueillis par Grace Hamzati.
Il était question pour nous de nous rassurer que les opérations militaires sont suffisamment financées, mais aussi le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, pour s'enquérir de la situation relative à l'affiliation des éléments de FRDC et de la PNC à la Caisse nationale de sécurité sociale, parce que nous veillons aussi à la sécurité sociale ou à la situation des militaires, du budget, parce que la chaîne des dépenses est constituée du budget du ministre des Finances et du gouverneur de la banque, même si on n'a pas tenu compte de ces derniers, du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Mines en ce qui concerne la question relative à la sécurité des sites miniers. Comme vous le savez, que si la RDC fait l'objet d'agressions de la part du Rwanda, c'est principalement en ce qui concerne les questions minières. Et donc, il était question pour nous de savoir quelles sont les dispositions, les mécanismes de sécurité mis en place pour assurer la protection de nos sites. Et c'est un outil important, ça peut justement permettre aux collègues d'avoir un jugement objectif sur ces questions essentielles de la vie nationale.
Actualité internationale.
En Côte d'Ivoire, deux femmes enceintes du parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, arrêtées en octobre 2025, ont été libérées jeudi 23 avril. Une libération saluée par le parti des peuples africains Côte d'Ivoire qui demande la remise en liberté d'autres détenus, dont une femme enceinte.
L'invité.
L'invité de ce journal, c'est Dr Jude Nkwen. Il est le chargé des programmes pour la RDC au sein de l'organisation Gavi, Alliance globale pour les vaccins et la vaccination. En séjour au Maniema, il a fait le point sur le déroulement des activités de vaccination, identifié certains défis de la province et réaffirme l'engagement des Gavi à continuer à appuyer la province du Maniema dans l'éradication de la poliomyélite dans cette province. Docteur Jude Nkwen s'entretient avec Florence Kizalunga.
Jude Nkwen, bonjour.
Bonjour.
Gavi finance les activités de vaccination dans le pays et même dans la province du Maniema. Aujourd'hui, vous êtes venu vous rendre compte des activités qui sont menées dans le cadre de la vaccination ici en province. Vous avez quel constat?
Juste pour commencer, je vous dis que c'est depuis 2002 que Gavi est en train d'apporter son soutien à la RDC. Et depuis 2002, nous avons appuyé la RDC en termes de vaccination à l'auteur de 2 milliards de dollars. Donc notre directrice exécutive était ici en novembre et elle a réaffirmé le soutien de Gavi au président de la République et aussi au ministre de la Santé nationale. Donc c'est toujours dans ce cadre que nous sommes ici à Maniema, en province qui vient de déclarer plusieurs cas de polio variant. Et nous sommes là pour juste prendre un peu le contexte de la vaccination, discuter avec les autorités, aussi identifier les différents points positifs, les défis et ensemble identifier les actions à prendre pour relever la situation et faire en sorte que dans le prochain futur, la province ne soit pas une province qui a ses cas et aussi de renforcer la vaccination de routine.
Vous avez sillonné la province. Ce que vous avez vu, est-ce que vous êtes convaincu?
Oui, je pense que nous avons vu l'engagement du niveau provincial, surtout au niveau de l'Assemblée provinciale, où le président par intérim de l'Assemblée provinciale nous a indiqué que la province va mener les états généraux de la santé. Et nous pensons qu'avec ces états généraux de la santé, la province va aussi identifier les problèmes liés à la vaccination. Après ces états généraux, la situation de personnel au niveau de la province sera stabilisée. Ensuite, nous avons discuté avec la division provinciale de la santé, où ensemble nous avons revu la performance du province. Nous pensons qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits et nous encourageons et nous avons encouragé l'équipe de la division provinciale de continuer à mener les efforts pour rattraper les enfants qui ne sont pas encore vaccinés et aussi de rassurer que dès qu'on rentre, nous allons aussi travailler avec la direction du PEV au niveau central pour voir comment aider de plus en plus cette province pour le renforcement de son système de santé.
Alors, vous appuyez la province et la province ne fait que notifier les cas de poliomyélite. Est-ce que Gavi reste toujours déterminé à accompagner la province du maniement?
Oui, nous sommes très déterminés. Juste pour dire que Gavi est ici aussi avec la Fondation Gates et aussi l'équipe du COUP, c'est-à-dire le Centre d'opération d'urgence contre la polio. Et ensemble, nous allons travailler. Nous savons que pour éliminer ces cas, il faut renforcer la vaccination de routine, c'est-à-dire il faut vacciner les enfants avec tous les vaccins. Donc, notre appui au pays va continuer et surtout aussi ici à Maniema.
Docteur, étant sur terrain, quels sont les défis que vous avez pu constater et détecter dans la province?
L'une des choses que nous avons identifiées comme défi, c'est qu'il manque dans certaines formations sanitaires éloignées les réfrigérateurs pour garder les vaccins. C'est-à-dire, dans ce contexte-là, les infirmiers, les vaccinateurs doivent parcourir de longues distances pour pouvoir collecter les vaccins et rentrer vacciner leur population. Donc, pour cela, Gavi a lancé un projet d'optimisation de la chaîne du froid. Ce projet s'appelle le plateforme d'optimisation des équipements de la chaîne du froid. Et la RDC a eu une approbation de 24 millions de dollars pour acheter les équipements pour tout le pays, y compris le Maniema.
Monsieur Gide, nous savons qu'il y a une baisse de financement au pays. Est-ce que cela ne peut pas avoir d'impact pour la province du Maniema?
Bien sûr, depuis l'année passée, nous avons constaté une baisse importante de financement au niveau global. Et c'est l'occasion que nous avons aussi utilisée lors de cette mission de encourager le gouvernement provincial à mobiliser plus de ressources en faveur de la vaccination et la santé. Nous sommes réjouis que les édits ont été passés et nous pensons et nous encourageons l'équipe provinciale de décaisser les fonds qui sont programmés déjà dans les édits pour appuyer la vaccination et dans les années à venir de continuer à mettre la santé comme une priorité. Et nous sommes là pour continuer à travailler avec le niveau central, avec la province pour s'assurer que les différentes difficultés en termes de baisse de financement sont résorbées et que les activités prioritaires, etc., au niveau de la province sont identifiées aussi. La mobilisation et le décaissement des ressources provinciales augmentent en faveur de la santé aussi, surtout la vaccination.
Docteur Gide Nkouine, merci.
Merci.
C'était notre invité, le docteur Gide Nkouine, qui s'entretenait avec Florence Kizalunga. Et voilà qui met fin à cette grande édition du journal Parler de la mi-journée, coordonnée et supervisée par Jean-Gando Kabongo et mise en onde par Pierre Diassinois. Ce journal est à suivre sur notre page TikTok et à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.